Ce soir, nous recevons donc Jacques Pépin. Jacques Pépin est né en 1942. Il est architecte de stockage de données. Actuellement, il est donc architecte de stockage de données chez Bull BVA et il est cofondateur de Storage Academy, qui est un site internet en construction dédié à l'analyse de stockage. Il est spécialiste donc du stockage de données et plus particulièrement de l'architecture des solutions de stockage. Il est membre du SNIA, Storage Network Industry Association, qui est une association américaine qui a pour but de fédérer les standards relatifs au stockage de données. Il a écrit de nombreux articles, notamment dans Technique de l'ingénieur, et il a publié en 1999 aux éditions Erol un ouvrage qui s'intitule « Solutions de stockage ». Jacques Pépin, je vous cède donc la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi pourra suivre un débat de 20 minutes avec le public. Je vous remercie.
Eh bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, je vous propose trois réflexions. Notre civilisation a produit plus d'informations ces 30 dernières années que pendant les 5000 ans qui ont précédé. Deuxième réflexion. En 1999, on estimait à 4% à peu près la quantité mondiale d'informations sous forme numérique, c'est-à-dire retraitable par ordinateur. Le reste étant du papier, des microfilms ou d'autres formes analogiques. Eh bien, ce pourcentage va passer à 15% en 2004. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, plus de la moitié de l'information que nous allons créer sera déjà sous forme digitale. Troisième remarque. 4 ans ont suffi pour atteindre 50 millions d'utilisateurs sur Internet. Et il aura fallu 20 ans au micro-ordinateur et 40 ans au poste de radio pour atteindre ce même nombre. Donc ces quelques images montrent bien avec quelle fantastique accélération nous entrons dans le monde de l'information. Et cela montre aussi le défi difficile auquel est confronté le stockage de données. Alors, pendant cette petite heure, nous allons voyager dans le monde du stockage. Nous verrons comment les technologies réagissent, comment les architectures évoluent. Nous mettrons l'accent sur le SAN, ce nouveau concept de stockage en réseau qui est en train de révolutionner le monde du stockage. Et enfin, nous terminerons par une réflexion sur le stockage du futur. Alors, avec l'ère de l'information, eh bien, on a changé d'échelle. Premier changement d'échelle. Si l'on regarde la livraison annuelle mondiale de stockage externe, c'est-à-dire tout le stockage qui est mis à l'extérieur des micro-ordinateurs et des serveurs, eh bien, elle s'exprime maintenant en millions de téraoctets, alors qu'elle s'exprimait en milliers de téraoctets au début des années 90, un rapport 1000. Un téraoctet, c'est 1000 milliards de caractères. Et c'est là le premier défi qui est posé au stockage, comment accueillir ces énormes masses de données. Second changement d'échelle, eh bien, c'est le déploiement d'Internet. Il est difficile de faire des prévisions dans ce domaine, tant le développement est incontrôlable. Actuellement, le nombre d'internautes progresse de 10% par mois. Bon, si ça continue à ce rythme, dans 3 ou 4 ans, il y aurait plus d'internautes que d'habitants de la planète. Mais plus raisonnablement, les analystes avancent le nombre de 300 millions en 2002. Donc alors, comment répondre à ce déferlement de communication? Comment accélérer les échanges de données? Comment réduire les temps d'accès? C'est là le second défi qui est posé aux architectures de stockage. Troisième changement d'échelle. Le commerce électronique. En 5 ans, le revenu passerait de 150 à 2500 milliards d'euros pour l'année 2004. Donc c'est le troisième défi posé au stockage. Comment gérer et protéger ces énormes quantités de données qui constituent maintenant la richesse, le patrimoine des entreprises? Comment être suffisamment réactif pour s'adapter en temps réel aux changements de comportement des clients et pour répondre à des charges de sollicitation qui sont souvent imprévisibles. Alors, on a changé d'échelle et je vous invite à prendre quelques instants pour visualiser ce que représente un téraoctet. Bon, je l'ai dit, c'est 1000 milliards d'octets. Bon, tout le monde sait qu'un octet, c'est 8 bits 0 ou 1, donc ça représente donc à peu près 1000 milliards de caractères. Et en équivalent papier, bah, les écologistes vous diraient que c'est 40 000 arbres détruits. Et les informaticiens du début de l'informatique peuvent penser à une bande perforée qui ferait plusieurs fois le tour de la Terre. Un téraoctet, c'est 32 ans de transmission à 9600 bouts. Et c'est aussi 20 millions d'images et 500 millions de pages de texte. Eh bien, aujourd'hui, ce téraoctet, il tient sur un système de 15 à 20 disques qui n'est pas plus volumineux qu'un tiroir de commode. Et bientôt, il tiendra sur une ou deux cartouches magnétiques. Alors là, je vous ai inondé de chiffres, et je m'en excuse un peu, mais c'était pour bien vous sensibiliser sur ce fantastique Big Bang de l'information dont nous sommes aujourd'hui témoins. Donc voyons maintenant comment réagissent les technologies. Vous voyez sur l'écran la pyramide des technologies de stockage. Au sommet, on trouve les technologies les plus rapides, mais aussi les plus chères et les moins capacitives. À l'inverse, en descendant vers la base, on trouve des technologies moins performantes, mais plus capacitives et meilleur marché. Alors, de haut en bas, on trouve les mémoires RAM à semi-conducteurs. Ensuite viennent les disques électroniques, les disques durs magnétiques, les disques optiques et tout en bas, les bandes magnétiques. À droite de la pyramide, le tableau donne des ordres de grandeur pour des systèmes de stockage construits avec chacune des technologies. Par exemple, on voit que des systèmes disques magnétiques rapides ont des temps d'accès inférieurs à 8 millièmes de seconde, sont capables de stocker des centaines de milliards d'octets à des coûts inférieurs à 0,4 euros par mégaoctet. À l'inverse, les librairies robotisées de bandes magnétiques peuvent stocker des centaines de téraoctets à des coûts 10 fois moins chers, mais avec des temps d'accès qui se chiffrent en secondes. Alors, il y a deux leçons à retenir de ce schéma. Un, les disques durs magnétiques empiètent de plus en plus sur les domaines des disques optiques et des bandes magnétiques. Ceci à cause de leur forte capacité qui devient de plus en plus bon marché. Et la seconde leçon, c'est que les disques optiques sont en quelque sorte coincés entre les disques magnétiques et les bandes magnétiques et sont restreints à des marchés de niche. Alors, à tout seigneur, tout honneur, parlons des disques magnétiques. Alors, c'est effectivement la technologie dominante. Bien, il y a plus de 40 ans, c'était en 1956, la société IBM introduisait le premier disque dur à tête mobile, le RAMAC 350. Et ce disque dur avait besoin de 50 plateaux de 60 cm de diamètre pour emmagasiner quoi ? 5 millions de caractères. Pour la petite histoire, le revêtement magnétique utilisé était dérivé de la peinture qui avait servi au Golden Gate de San Francisco. Eh bien, ce RAMAC 350, il se louait 35 000 dollars par an. Eh bien, aujourd'hui, les disques ont un diamètre de moins de 10 cm et sont capables de stocker des dizaines de milliards de caractères à moins d'un franc le million de caractères. Voyez les progrès qui ont été faits en 40 ans. Alors, il y a deux paramètres principaux pour caractériser un disque. La densité surfacique. Donc c'est le produit de la densité linéaire qu'on exprime en kilobits par pouce par le nombre de pistes par pouce. Je vous rappelle qu'un pouce, c'est égal à 2,54 cm. Aujourd'hui, un disque dur de 36 gigaoctets a une densité surfacique de plus de 3 gigabits par pouce carré, une densité linéaire de 250 000 bits, et on peut mettre plus de 12 500 pistes sur un pouce, c'est-à-dire sur 2,54 cm. Et la course à la densité ne semble pas devoir s'arrêter. Des densités de plus de 20 gigabits ont déjà été expérimentées en laboratoire. Alors, voyez la forte croissance de la courbe. On est là en échelle logarithmique. L'autre paramètre, c'est le temps d'accès. Donc, c'est le temps pour accéder aux données sur le disque. Et il se mesure en millième de seconde. Et c'est essentiellement la combinaison de deux temps. Le temps de recherche de pistes, c'est-à-dire c'est le temps mis par l'ensemble des pistes, par l'ensemble des têtes pour se mouvoir entre les pistes. Pour passer d'une piste à l'autre, ça prend environ un millième de seconde. Et pour passer de la piste interne à la piste externe sur le disque, il faut compter une quinzaine de millisecondes. L'autre paramètre, c'est la latence de rotation. Une fois que la tête est placée sur la bonne piste, encore faut-il que les données passent sous la tête. Et là, le temps d'attente s'exprime par une demi-rotation. Et aujourd'hui, les meilleurs disques tournent à 10 000 tours par minute, ce qui correspond à une demi-rotation de 3 millisecondes. Alors, dans la technologie des disques magnétiques, il faut retenir deux choses. Ça, c'est très important. Un, la densité surfacique double tous les 18 mois. Et deux, le prix ramené au mégaoctet diminue de 40% par an. Alors descendons la pyramide. On rencontre l'optique. Et là, l'optique, eh bien, il subit trop de changements technologiques et les technologies optiques deviennent vite obsolescentes. En fait, l'optique est confinée à des applications sectorielles où, je dirais, on l'apprécie pour sa robustesse et sa durée de vie dans le temps. Cependant, en septembre 1995, ça c'est une date importante pour l'optique, les industries de la vidéo grand public d'une part et les industries de l'informatique d'autre part se sont mis d'accord pour promouvoir un standard mondial, le DVD. Alors, le standard DVD reprend les caractéristiques physiques du compact disque, comme le CD-ROM, il a un diamètre de 12 cm. Seulement sur chaque face du disque, on peut implanter deux couches de matériaux. Et chaque couche offre 6 à 7 fois plus de capacité qu'un CD-ROM. Ça veut dire qu'un DVD double face, double couche, sera capable de stocker 17 gigaoctets. Alors la technologie DVD va évidemment bénéficier de l'effet de masse de l'industrie grand public. Et elle devrait redonner au stockage optique la place qu'il mérite dans la pyramide hiérarchique des technologies de stockage. Un peu plus bas, on trouve les bandes magnétiques. Et les bandes magnétiques, elles connaissent vraiment aujourd'hui un nouvel essor. Déjà, elles deviennent de plus en plus capacitives. Bon, il existe deux grandes techniques d'enregistrement magnétique sur bande. Il y a l'enregistrement hélicoïdal. C'est en fait la combinaison de deux mouvements. Les têtes sont sur un tambour qui tourne à toute vitesse et qui fait un certain angle avec la bande qui défile. Et l'autre technique, c'est l'enregistrement longitudinal. Donc on écrit en parallèle sur des dizaines de pistes dans le sens de la bande. Et bien avec ces technologies, il est possible aujourd'hui de mettre 100 mégaoctets sur une cartouche, 100 milliards de caractères. Et le téraoctet se dessine à l'horizon. Les bandes magnétiques deviennent aussi intelligentes. Certaines cassettes intègrent une petite mémoire qui qui contient la liste des fichiers et leur position sur la bande, ce qui permet, vous comprenez, facilement d'accéder rapidement aux différents fichiers qui sont sur la bande. Et enfin, la fiabilité des bandes magnétiques s'est considérablement accrue grâce à l'utilisation de puissants codes détecteurs correcteurs d'erreurs. Alors, nous avons vu que les technologies d'aujourd'hui sont prêtes à relever le défi posé par l'information, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient orchestrées par une évolution des architectures. Alors, je commencerai par deux avancées d'architecture qui ont vraiment enrichi les technologies des disques magnétiques et des bandes magnétiques. Je veux parler du RAID et de la bande virtuelle. D'abord, le RAID. Alors, dans les années 80, c'est sous l'impulsion des micro-ordinateurs personnels, les disques sont devenus de plus en plus petits et de moins en moins chers. Donc, dans les gros systèmes, on a naturellement remplacé les gros disques par plusieurs petits disques. Mais si les petits disques sont bon marché, ils sont aussi d'une technologie délicate. Et ils sont moins fiables. On a donc cherché à introduire une forme de redondance dans ce groupe de disques. C'est ainsi qu'est né en 1988 le concept de RAID à l'Université américaine de Berkeley en Californie. Bon, RAID signifiant Redundant Array of Inexpensive Disks, un réseau redondant de disques pas chers. Alors, brièvement, quel est le principe du RAID, eh bien le système, l'utilisateur, voit un disque logique sur lequel il enregistre des données, des blocs de données, P1, P2, P3. Et en fait, ces blocs sont répartis sur plusieurs disques physiques, et on utilise un disque physique supplémentaire appelé disque de parité. Alors, le bloc de parité P est obtenu en opérant une disjonction, ou encore un OU exclusif, bit à bit, sur l'ensemble des blocs dans la même bande. On a bloc P est égal au bloc 1, modulo bloc 2, plus modulo bloc 3. Ça, c'est la disjonction. Eh bien, la propriété de la disjonction fait que l'on a également la relation bloc 2 égale bloc 1, plus bloc P, plus bloc 3. Donc, en cas de panne, de perte du disque 2, on comprend que l'on puisse ainsi reconstituer son contenu à partir des autres disques de données et du disque de parité. Voilà le principe du RAID. C'est simple, encore fallait-il y penser et surtout le mettre en œuvre. Bande virtuelle. Alors, le principe, là, est d'intercaler entre la librairie de bande magnétique et des différents serveurs, un serveur de bande virtuelle qui est constitué d'une grande mémoire cache sur disque. Donc le serveur émule les bandes magnétiques et contient toutes les informations qui permettent le montage et le démontage des volumes. Alors, ce concept présente deux avantages. D'abord, il masque la réalité physique des différentes technologies et facilite donc leur interopérabilité. En fait, le système, lui, ne s'aperçoit pas de la virtualisation. Tout se passe comme s'il manipulait ses bandes magnétiques habituelles. Le deuxième intérêt, c'est qu'il accélère les échanges grâce à la fonction cache sur les disques. Parce que, étant donné qu'en moyenne, 80 à 90% des volumes sont rappelés dans moins de 24 heures, eh bien, on ne les écrit pas sur la bande. Ce qui veut dire que la plupart des opérations se font à la vitesse des disques. Alors, il est intéressant d'observer le mouvement des architectures de stockage. Progressivement, les infrastructures d'entreprise passent d'un modèle où la fonction calcul était au cœur du système informatique vers un modèle qui devient centré sur l'information. Et on peut dire que les architectures de stockage ont accompagné et même précédé ce mouvement. On peut distinguer trois vagues d'évolution des architectures. Alors, dans la première vague, le stockage, il est dédié au serveur. Il appartient totalement au serveur. C'est une simple boîte qui est étroitement couplée à l'unité centrale du serveur et administrée par ce dernier. Qu'est-ce qu'on lui demande au stockage? On lui demande de répondre vite, évidemment, aux sollicitations des applications, et on exige que de lui qu'il maintienne l'intégrité des données qu'il accueille. C'est pourquoi on y trouve la plupart du temps la fonction RAID. Dans la seconde vague, on va chercher à partager localement la ressource de stockage entre plusieurs serveurs de différentes technologies qui peuvent tourner des systèmes d'exploitation différents, Unix, NT, Linux. Alors, le stockage se détache des serveurs. Il a maintenant sa propre administration et, devenant plus indépendant, il devient aussi plus intelligent. Par exemple, le système de stockage va prendre en charge la recopie de données sur un autre système à plusieurs kilomètres. Il va assurer le partage sécurisé des ressources entre les différents serveurs. Et avec la troisième vague, alors le stockage de données se met en réseau. Il s'affranchit complètement des distances et il s'étend à toute l'entreprise. Il est devenu cette fois-ci complètement indépendant du serveur. Et en fait, là, on peut dire qu'à ce moment, le stockage de données constitue une dimension à part entière de l'informatique. Et le déploiement du stockage en réseau repose aujourd'hui essentiellement sur le concept de SAN que je vais développer maintenant. Alors, dans une architecture classique, les serveurs échangent des messages et des données à travers les réseaux d'entreprises classiques, comme Ethernet, par exemple, et ils ont chacun leurs propres ressources de stockage. Le SAN, donc qui signifie Storage Area Network, c'est un nouveau réseau à haute vitesse, qui est conçu spécialement pour le stockage et qui vient s'installer derrière les serveurs, en plus, en complément des réseaux d'entreprise. Alors, dans son concept, il autorise non seulement des liaisons entre n'importe quel serveur à n'importe quel stockage, mais il autorise aussi des liaisons entre unités de stockage vers une autre unité de stockage. On peut dire que dans les réseaux d'entreprise, on échange des messages et on manipule des fichiers. Sur le SAN, on échange des blocs physiques de données. Alors, le SAN doit surtout son développement aujourd'hui à la technologie Fibre Channel, qui est une technologie largement adoptée par l'industrie. Un lien Fibre Channel permet de transporter des données sur plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres, et ce, à une vitesse de 100 millions de caractères par seconde. Alors, quels sont les avantages du SAN? Le premier avantage, c'est que les barrières de distance sont brisées, puisque les ressources de stockage peuvent maintenant être installées à plusieurs kilomètres des serveurs. Et la connectivité de Fibre Channel dépasse largement celle des interfaces traditionnelles, puisque théoriquement, un réseau Fibre Channel peut supporter jusqu'à 16 000 nœuds. Chaque serveur ayant la possibilité d'accéder directement à l'ensemble des ressources de stockage, on conçoit qu'il soit beaucoup plus facile maintenant d'adapter la capacité de stockage en fonction de l'évolution des applications. On dispose en quelque sorte d'un jeu de curseurs qu'on fait bouger en fonction de la demande des applications. Bon, les ressources de stockage sont regroupées en réseau. Donc elles deviennent visibles à partir d'un seul point d'administration. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le SAN permet maintenant d'avoir une administration unifiée de l'ensemble des ressources de stockage, ce qu'on n'avait pas lorsque le stockage était privé à chaque serveur. Et désormais, les données peuvent s'échanger à travers un réseau rapide spécialisé, donc ce qui va donc permettre de décharger les réseaux traditionnels de l'entreprise et surtout d'accélérer considérablement les sauvegardes de données. Enfin, dernier avantage, grâce à la technologie Fibre Channel, il est maintenant possible de recopier des données sur plusieurs kilomètres, je l'ai déjà dit, mais avec des temps de réponse qui sont identiques à ceux qu'on obtiendrait en couplage local. Et ça, c'est très intéressant lorsque les entreprises veulent se prémunir contre les sinistres, par exemple, contre la destruction d'un bâtiment. Alors, on a vu que les technologies, les architectures sont en mesure aujourd'hui de répondre aux défis de l'information. Mais qu'en sera-t-il demain ? Que sera le stockage de données dans les prochaines années ? Alors, déjà, première question, jusqu'où ira-t-on dans la course à la densité magnétique ? Mais il semble bien qu'il faille franchir un obstacle, ce qu'on appelle franchir le mur du SPE. SPE, ça veut dire effet superparamagnétique. Et c'est un phénomène physique qui survient quand les grains magnétiques ne sont plus capables de maintenir un champ magnétique à une température donnée. À ce moment-là, l'influence des cellules adjacentes est telle que la mémorisation n'est plus garantie. On ne sait plus si on a affaire à un 0 ou à un 1. Et en général, on situe cette limite autour de 150 gigabits par pouce carré. Alors, je vous rappelle tout à l'heure, là je parlais de disque dur, donc le disque magnétique le plus avancé du commerce aujourd'hui a entre 3 et 4 gigabits par pouce carré, ce qui nous laisse encore un peu d'oxygène pour les prochains mois et les prochaines années. Mais au-delà, peut-être faudra-t-il oublier l'enregistrement magnétique et s'engager vers d'autres technologies. Et là, l'ingéniosité des chercheurs dans les universités et dans les laboratoires des constructeurs, eh bien, elle est pratiquement sans limite. Donc, je vais balayer assez rapidement quelles pourraient être les technologies de demain. Eh bien, il y a d'abord les disques magnéto-optiques. Alors, l'idée, là, c'est d'utiliser un matériau magnétique très dur, très coercitif. Alors, le problème, c'est qu'il est difficile d'écrire sur un tel matériau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On le chauffe au laser pour l'adoucir, et en refroidissant, il retrouvera toute sa force de magnétisation. Mais la difficulté, c'est d'éviter que la chaleur engendrée par le laser ne vienne, évidemment, perturber toutes les cellules adjacentes. Un autre candidat, une autre technologie, c'est ce qu'on appelle le plateau et vallée. Alors, pour éviter que les bits de plus en plus petits interfèrent les uns avec les autres, eh bien, on cherche à les isoler par des vallées. Et cette technologie est pour l'instant freinée par les techniques de photolithographie empruntées au circuit intégré, qui ne permettent pas de dessiner des plateaux inférieurs à 80 nanomètres, c'est-à-dire 80 millièmes de micron. Et là, on est encore bien en dessous des espérances de très haute densité. Il y a une technologie qui est très prometteuse, c'est le stockage à résolution atomique. Alors là, les chercheurs n'ont pas peur, ils disent un atome égale un bit. Et l'idée, c'est de construire un réseau de sondes capable de créer par injection thermique des tâches de quelques nanomètres qui modifient l'état du matériau. Il passe par exemple de l'état amorphe à l'état cristallin ou vice-versa. Et imaginez un peu la complexité du micromoteur qui doit positionner ses sondes au nanomètre près, au millième de micron près. Mais avec ces technologies, on pense pouvoir atteindre des densités très fortes, de l'ordre du terabit par pouce carré. Un pouce carré, c'est toujours un petit carré de 2 cm 54 de côté. Dans d'autres laboratoires, on a cherché à faire revivre la bande perforée. Donc avec un stylet, on chauffe le plastique vers 400 degrés donc pour le faire fondre, ce qui fait une légère crevasse qui correspond à un bit. Pour la lecture, le stylet est chauffé à 350 degrés, bien sûr en dessous de la température de fusion du plastique. Et quand le stylet passe dessus, il y a une concentration de l'énergie thermique qui crée une variation de résistance du stylet. Et grâce aux technologies, cette fois-ci, des circuits intégrés, il est possible de réaliser des matrices de 1000 stylets sur un carré de 3 mm de côté. Et des densités de 400 gigabits par pouce carré sont actuellement en expérimentation. Alors, il y a une autre technologie qui se démarque complètement des technologies qu'on a déjà abordées, c'est le stockage holographique. Et là, je voudrais y penser quelques instants, parce que ça me paraît important. Principe du stockage holographique. Alors, un faisceau laser est séparé en deux faisceaux. L'un est appelé faisceau de référence et l'autre faisceau objet. Le faisceau objet illumine un SLM, un modulateur spatial de lumière. En fait, un SLM, c'est de technologie identique à un écran de cristaux liquides là, qu'on a sur les micro-ordinateurs, là, comme celui-ci. Et c'est à ce niveau-là qu'on entre les données à écrire sous forme d'une page de pixels. Alors, après avoir traversé le modulateur, le faisceau, qui est porteur de l'information, il est dirigé sur le cristal photosensible où il interfère avec le faisceau de référence qui est caractérisé par un certain angle. Et c'est cette interférence qui constitue en quelque sorte la substance de l'hologramme, c'est-à-dire une pléiade de propriétés physiques qui sont réparties dans le volume du cristal. Alors, pour lire les données, il suffit d'éclairer le cristal avec le faisceau de référence sous le même angle. Le faisceau résultant est dirigé vers une caméra CCD à partir de laquelle on récupérera les données. Et en faisant varier l'angle du faisceau de référence, donc l'angle correspond en fait à l'adresse de la mémoire, eh bien il est possible d'enregistrer plusieurs pages dans le même volume de cristal. Alors, une des difficultés à laquelle se heurte le chercheur, c'est la volatilité du matériau. Parce que plus on met d'hologrammes dans le même volume de cristal, et plus ils sont affaiblis, parce que les propriétés dynamiques du matériau sont finies. Et le choix d'un matériau qui ait des bonnes propriétés optiques, une bonne rémanence, une bonne sensibilité, eh bien c'est fondamental pour l'avenir du stockage holographique. Et pourtant, le stockage holographique, c'est une technologie très très prometteuse. On a l'habitude de dire que c'est la technologie qui permet d'enfermer 1 téraoctet, donc 1000 milliards d'octets, dans un morceau de sucre. C'est aussi une technologie très rapide parce que, comme je vous l'ai expliqué, en un seul coup, on écrit des pages d'un million de bits, et ceci sans mouvement mécanique. Et c'est aussi une technologie qui est potentiellement très fiable parce que vous cassez le morceau de sucre, eh bien vous retrouvez l'information dans les deux morceaux. Et c'est surtout une technologie, et ça je crois que c'est le plus important, qui est capable de mémorisation associative. C'est-à-dire que l'on peut accéder à l'information non plus en présentant une adresse, mais par son contenu. Pour rechercher de l'information sur un sujet donné, on interrogera le cristal holographique à partir en quelque sorte d'une empreinte digitale qui définit pleinement l'information qu'on cherche. Et ça, c'est très important parce que c'est une technologie qui nous aidera à extraire de l'information la connaissance dont on a besoin, la connaissance qui nous intéresse. Toujours pour demain, les autoroutes du stockage. Alors, d'une part, on a Internet, qui devient le réseau sur lequel va s'appuyer l'économie mondiale. Et d'autre part, on a d'énormes quantités de données à forte valeur économique, souvent, qui résident dans les systèmes de stockage. Eh bien, se dessine une convergence naturelle entre les besoins, d'une part, d'échanger d'énormes masses d'informations sur Internet, et de les conserver dans les systèmes de stockage. Et ceci, bien sûr, à l'échelle mondiale. Alors, dans les années à venir, cette convergence sera facilitée par une percée technologique fantastique dans les vitesses de transmission optique. Grâce à la technologie DWDM, il sera possible de transmettre des dizaines de terabits, hein, des dizaines de mille milliards de bits par seconde, sur une même fibre optique. La technique TWDM consiste à multiplexer plusieurs canaux de transmission de longueurs d'onde différentes sur une même fibre optique. On peut ainsi multiplier par 100, voire par 1000, la capacité de transmission d'une fibre optique. Alors, dans 5 ans, on estime qu'on aura installé 30 milliards de kilomètres de fibre optique dans le monde. C'est-à-dire 1000 fois plus qu'aujourd'hui. Bon, ça veut dire qu'on disposera alors d'une bande passante globale multipliée par 1 million, 1000 fois plus de kilomètres et 1000 fois plus de pouvoir de transmission de chaque fibre optique. Ça veut dire que la bande passante sera alors pratiquement infinie et très très bon marché. Et en plus, à cette époque, le stockage sera au prix du papier. On verra alors des réseaux de stockage se constituer à l'échelle des villes, puis s'étendre à la planète. Des réseaux de stockage constitués de SAN locaux, reliés entre eux par les autoroutes optiques. De Paris, on pourra accéder à un système disque installé à New York aussi vite qu'on accède sur le disque dur de son micro-ordinateur. Toujours pour demain, bon là c'est un peu compliqué, l'espace de stockage virtuel. Alors, en se mettant en réseau, le stockage doit satisfaire à trois exigences. Vous avez d'un côté, en bas de l'écran, des ressources de stockage qui sont réparties à plusieurs endroits, de différents types, de différentes technologies, provenant de différents constructeurs. D'un autre côté, en haut de l'écran, il y a des serveurs dispersés qui, eux aussi, sont conçus sur des différentes plateformes, proviennent de différents constructeurs, tournent diverses applications et dans des environnements d'exploitation très différents, tels que Unix, NT, Linux, etc. Et enfin, l'entreprise elle a des objectifs globaux d'exploitation économique de son information. Et elle voudrait bien que l'architecture informatique qu'elle a mise en œuvre sache continuellement s'adapter à l'évolution de ses besoins. Alors, pour résoudre cette complexité, il est nécessaire d'introduire le concept d'espace de stockage virtuel. Alors, chaque application ne voit que des disques virtuels. Et c'est le rôle du système d'automanagement que de matérialiser ces disques virtuels en choisissant les ressources les mieux appropriées parmi toute la hiérarchie des objets de stockage dont ils disposent. C'est aussi le système d'automanagement qui sera capable de réorganiser automatiquement l'espace virtuel en fonction de l'évolution des besoins des applications. C'est aussi le système d'automanagement qui sera tenir compte des exigences économiques de l'entreprise qui lui seront exprimées sous forme de règles ou de procédure. Alors, le stockage de données prend de plus en plus d'importance dans notre vie de tous les jours et il va de plus en plus s'apparenter à de la grande consommation. Le stockage de données tend à devenir une utilité. Ça veut dire qu'on va consommer de l'espace de stockage comme on consomme de l'électricité, comme on utilise le téléphone. Déjà, certaines entreprises confient à des sociétés spécialisées le soin d'héberger et de gérer leur stockage. Et ce type de service va s'étendre aux particuliers qui pourront par Internet stocker leurs données à distance dans des endroits sûrs, dans des endroits sécurisés. On estime que dans 5 ans, c'est peut-être un peu osé, mais un particulier aura besoin en moyenne de 100 gigaoctets de stockage personnel. Et c'est ainsi qu'on s'achemine progressivement vers la notion de stockage à la demande. Le stockage sur disque est en train de conquérir l'électronique grand public. Parce que les disques magnétiques sont devenus maintenant suffisamment compacts qu'ils ont maintenant leur place dans les appareils photo numériques ou dans les mobiles. Le temps n'est pas loin où l'on pourra mettre des dizaines de gigaoctets dans les téléphones mobiles. Témoin le microdrive qui est récemment annoncé par IBM, qui est capable de stocker 1 gigaoctet dans le volume d'une pièce de monnaie. Et 1 gigaoctet, c'est quand même 1000 photographies haute résolution, 1000 romans de 200 pages ou 18 heures de musique haute fidélité. Un autre axe de développement, c'est la télévision personnelle. Parce que le stockage sur disque est devenu suffisamment bon marché qu'il est prêt maintenant à entrer dans les foyers. On a récemment observé une baisse du stockage sur disque de plus de 1% par semaine. Vous vous rendez compte, la chute des prix. Et avec la télévision personnelle, donc le consommateur pourra stocker sur son disque dur les programmes vidéo, les visualiser en temps réel, il pourra les suspendre, les reprendre, il pourra en fait créer sa propre chaîne de télévision. Donc voilà ce que nous prépare l'avenir proche dans le stockage de données. Eh bien, j'arrive là un peu à la fin du voyage. Et en conclusion, je voudrais insister sur 4 messages. Le premier message, c'est qu'il est clair que la technologie magnétique est prête à assurer les énormes capacités de stockage pour les 4 ou 5 années à venir. Mais on a vu aussi que d'autres technologies se préparent à prendre la relève. Et là, la compétition sera très dure. Parce que pour qu'une technologie s'impose sur le marché, qu'elle soit adoptée par la communauté industrielle, il faut qu'elle apporte au moins un ordre de grandeur dans l'amélioration des performances, et bien sûr, tout en maintenant le prix des technologies courantes. Deuxième message, c'est qu'on va vers un rapprochement du stockage et des télécommunications sur fibre optique. Et le résultat, eh bien, c'est l'apparition de réseaux de stockage qui se sont affranchis complètement des distances. Troisième message, une partie du stockage de données va s'apparenter à de la grande consommation, donc il devient une utilité comme le téléphone ou l'électricité, et économiquement, il est prêt à envahir l'électronique grand public. Quatrième message, et peut-être le plus important, c'est que les progressions conjointes des technologies de stockage et des technologies de transmission sur fibre optique font que l'on s'oriente vers du stockage de la bande passante, quasiment illimitée et très bon marché. Et c'est là peut-être le point, le fait le plus important pour débloquer l'ère de l'information. Alors en conclusion, oui, le stockage de données est prêt à relever le défi posé par la croissance exponentielle de l'information. Mais pouvoir accéder à l'information, pouvoir la stocker, c'est nécessaire, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème qui se pose maintenant, c'est comment extraire de cette masse d'informations que l'on sait stocker la connaissance qui nous sera directement utile. comment en fait transformer l'information en connaissance. Et ça, c'est un autre défi. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Vous nous avez inondé de chiffres, tous plus ahurissants les uns que les autres. Mais voilà la question que je me permets de vous poser. Si je clique sur un mot, je prends un exemple récent, le terme Manhattan. Je vois apparaître une possibilité aujourd'hui de 600 000 articles se référant à ce mot. Pour préciser ma pensée, il faudra donc que je donne des renseignements supplémentaires, de très nombreux renseignements pour préciser la donnée dont j'ai besoin. Alors le temps que je mettrai à taper ces informations à la vitesse humaine ne sera-t-il pas un temps qui interviendra comme obérant la vitesse d'exploitation de la donnée que je recevrai? Comment peut-on remédier à ce phénomène humain, en quelque sorte? Merci.
Là, vous touchez à ma conclusion, là, quand je vous ai dit qu'il y avait un autre défi, qui était, c'est bien beau d'avoir toutes ces énormes masses d'informations, de savoir les stocker, mais le problème, c'est comment en extraire la connaissance qui justement nous intéresse. Et là, pour l'instant, ben, écoutez, c'est ouvert. Il y a certains outils qui se développent dans les moteurs de recherche. Par exemple, vous avez des possibilités de mieux cerner l'information que vous allez chercher. Mais je dirais qu'on en est un peu à l'âge de pierre aujourd'hui de l'extraction de la connaissance à partir de l'information. Votre question est très, très... Pas très pertinent, bien sûr, mais je n'ai pas de réponse satisfaisante là pour l'instant.
Une autre question sur le côté, là.
Merci, monsieur, pour votre présentation. J'avais une question subsidiaire qui concernait la pérennité de conservation de ces informations sur les supports, s'il fallait renouveler régulièrement et transférer sur de nouveaux supports afin de garder trace ou de pouvoir exploiter ultérieurement ces éléments, ces données.
Oui, ça, c'est effectivement un sujet que j'aurais souhaité aborder, mais que je n'ai pas abordé à cause du temps. Donc, vous me donnez l'occasion d'en parler. Je vais vous dire mes sentiments sur le problème de la conservation de l'information, parce que c'est bien là la question. Toutes ces masses énormes, là, monsieur parlait de chiffres astronomiques, de téraoctets, maintenant ça va être des pétaoctets, le problème, ça va être de les conserver dans le temps, 5 ans, 10 ans, 50 ans, et même 100 ans. Je sais qu'il y a même certains documents médicaux qui doivent être conservés plus de 100 ans. Et ça pose, je dirais, déjà un quadruple problème. Un, il faut trouver le bon média, le bon support, c'est-à-dire un support qui puisse garantir qu'il conservera les données pendant 10 ans, 30 ans. Aujourd'hui, il semblerait que les bandes magnétiques sachent conserver les données pendant 10 ans et peut-être même plus si on les conserve à température constante et puis si on en prend soin. L'optique, on parle de 30 ans. Mais le problème du média, c'est pas ça le vrai problème. Parce qu'il y a le média, mais il y a le format de données. Et le format de données, rien ne prouve que dans 20 ou 30 ans, on saura relire des données avec le format actuel. Et troisième point, il y a le matériel, c'est-à-dire le lecteur qui est capable de lire le média d'aujourd'hui. Est-ce qu'on aura encore ce lecteur dans les 10 ou 20 ans qui viennent? Et il y a le logiciel qui vient avec, c'est-à-dire le pilote du lecteur et l'application. Alors, il y a des remèdes immédiats. Bon, on peut faire du papier, on peut les mettre sur CD-ROM, mais si on les met sur CD-ROM, on retombe dans le problème du format. On peut certains imaginaient de conserver des sortes de musées. Des musées où, par exemple, il n'y a pas si longtemps, on parlait de disques souples 8 pouces. Aujourd'hui, un disque 8 pouces, vous n'avez plus le lire, vous n'avez plus le lecteur, vous n'avez plus le matériel. Donc, à certains endroits, on a conservé l'ensemble médias, lecteurs et logiciels. Alors, si on veut conserver, moi je pense, des données à moyen terme, disons sur 10 ou 20 ans, ce qu'il faut faire, c'est périodiquement rafraîchir l'information, c'est-à-dire faire migrer l'information qui est sur une technologie, disons, ancienne, vers une technologie nouvelle. Mais là encore, ce n'est pas si simple que ça, parce que quand on parle de téraoctets, ça prend du temps, c'est très lourd. Et puis quand vous passez d'une technologie à l'autre, vous pouvez perdre de la fonctionnalité. On a cherché aussi à définir un standard universel des données. Et en fait, pendant les bases de données, il y a un standard ANSI. Mais il se trouve que les constructeurs, ils vont plus loin, puis ils enrichissent le standard. Alors, c'est pas simple, cette question. Et moi, je crois qu'il y a d'autres directions qui consistent, qui sont actuellement en cours d'étude, c'est d'émuler un vieil hardware en software. C'est-à-dire que de faire en sorte que l'on puisse, sur un futur matériel, relire des données qui ont été émulées en software. Et ces données, eh bien, non seulement, il faut aussi les encapsuler avec ce qu'on appelle des métadata qui décrivent leur format. Donc il y a une recherche dans ce sens, mais la question est ouverte et elle est très délicate, surtout avec cette explosion de l'information. Voilà ce que je peux vous dire.
Question là-haut, monsieur, levez-vous.
Oui, toujours sur ces problèmes d'information.
Levez-vous, s'il vous plaît.
Toujours sur ces problèmes d'information. Comment pouvez-vous imaginer, sur ces grands serveurs, un réseau, garantir la sécurité de l'information et la fiabilité de l'information? Si n'importe qui peut y avoir accès, comment éviter des manipulations, des trafics?
C'est vrai que quand on met le stockage en réseau, eh bien, on acquiert les bénéfices du réseau, mais aussi ses inconvénients. Et l'inconvénient d'un réseau, c'est effectivement d'assurer la sécurité et la confidentialité. Bon, déjà, avec la notion de SAN, là, j'en ai pas parlé, mais il existe des techniques qui permettent quand même de sécuriser les accès à différentes ressources de stockage. Il existe des techniques de zoning, par exemple, qui permettent de dire... Voilà, j'ai mes ressources de stockage, eh bien, je fais en sorte qu'une partie ne pourra être accessible que par tel et tel serveur. Donc ça me permet d'isoler, si vous voulez, un domaine qui ne sera pas pollué par les serveurs voisins. Il y a d'autres techniques aussi qui existent qui permettent de faire en sorte que le SAN soit de plus en plus sécuritaire. Alors, contre l'intrusion, par exemple... Contre l'intrusion, si on prend un SAN Fiber Channel constitué de switch, enfin de commutateurs, eh bien il est pas simple quand même de venir d'introduire un appareil espion, si vous voulez, sur le réseau, parce que c'est automatiquement détecté par le système d'administration. Bon, ceci dit, ce que je vous dis n'est pas aussi rose que ça devrait l'être. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est un souci très important pour le stockage en réseau.
Question là.
Première question. On a vu dans d'autres domaines de l'informatique que le juridique avait la peine à suivre l'informatique. Et vous avez parlé d'espace de stockage. Oui. Autrement dit, est-ce que le juridique arrive à déterminer qui est propriétaire d'un espace de stockage? C'est ma première question.
Excusez-moi, pardon. Qui?
Qui est propriétaire d'un espace de stockage?
Posez votre deuxième question.
Et la deuxième question, vous avez parlé de la transformation qu'il faudrait avoir entre de l'information à la connaissance. Oui. Est-ce que cette question ne rejoint pas celle qu'on avait déjà avec les fiches perforées, qui finalement permettait, en classant les informations de façon différente, en donnant des classifications multiples aux informations, qui permettait de transformer effectivement des informations en connaissances?
Oui, allez-y.
Je vais te répondre à celle-là déjà. Alors, la première question, c'était qui est propriétaire de l'espace de stockage ? Bon, il est sûr que le stockage se mettant en réseau et s'étendant à toute l'entreprise, ça veut dire que potentiellement, tous les serveurs ont accès à l'ensemble de l'espace de stockage. Alors, qui est propriétaire de l'espace de stockage ? Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, maintenant, de définir dans cet espace de stockage des domaines privés sur lesquels ne pourront agir que des serveurs prédéterminés par l'administrateur sur du stockage prédéterminé. Donc qu'un groupe de serveurs d'application peut être propriétaire d'une partie de l'espace de stockage. On peut aussi définir des espaces de stockage partageables entre différents propriétaires avec certains droits d'accès. Vous pouvez par exemple dire tel système de disque, je veux que telle application puisse l'écrire et le lire, puisse modifier les données, et puis je veux par contre que telle autre application n'ait le droit que de les consulter. Donc on arrive quand même à, bien que l'espace de stockage soit effectivement global, on arrive quand même à déterminer des domaines privés.
Merci. Merci beaucoup pour cette conférence trop brève et très riche et qui nous rendrait avides d'informations technologiques en particulier. Et je pense à ce que vous avez dit à propos de la naissance des grands disques d'IBM. Il y avait une astuce pour tenir les têtes de lecture et d'écriture à distance qui était au moyen d'un petit jet d'air. Je voudrais vous demander comment est-ce que ça se fait actuellement, d'une part, et puis en particulier le passage magnétique à optique, puisque l'optique devient extrêmement importante en raison de la vitesse de transmission des informations, et puis par exemple aussi, autre technologie, la réécriture, le réenregistrement des disques CD ou DVD. C'est ça, par exemple. Merci d'avance.
La première question, c'était sur les disques magnétiques.
C'est ça, sur les disques magnétiques. Comment se fait la lecture et l'écriture et la lecture au moyen des têtes, surtout avec la précision que ça demande actuellement. Donc c'est pour actualiser en quelque sorte la technologie.
En fait, à l'écriture, on envoie un courant dans la tête d'écriture qui se traduit sur le revêtement magnétique par une polarisation du champ magnétique.
D'accord, dans un sens ou dans l'autre. Mais il ne faut pas toucher, c'est ça.
Ah oui.
C'est ça.
Les têtes volent. J'ai plus en tête, mais c'est bien inférieur au micron. On fait souvent la comparaison d'une tête qui tourne autour d'un disque à un 747 qui volerait autour de la Terre à un mètre du sol. C'est ça, si ça vous donne une image. Et il y a une sorte de liquide là, qui est maintenu entre la tête et le revêtement magnétique. Et souvent, le problème des disques à très haute densité, c'est que la tête atterrit et vient, c'est un crash, et elle vient heurter les particules de magnétique, et là, le disque meurt.
Oui, je me rappelle qu'autrefois, ça se faisait par un jet d'air.
C'est un jet d'air, il y a toujours le jet d'air, mais maintenant, il y a aussi en plus une sorte d'huile qui est injectée. Mais les problèmes restent le même parce que vous augmentez les densités et vous avez besoin, pour pouvoir lire, que la tête soit de plus en plus presque quasiment au niveau de la surface. Et puis les problèmes que vous avez connus sont encore les mêmes aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Mais amplifiés. Quoi.
Et alors, ce que je vous.
Et pour écrire sur les disques optiques.
Oui.
Alors, pour écrire sur les disques optiques, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le changement de phase, c'est-à-dire le changement d'état du matériau. On le fait passer de l'état amorphe à l'état cristallin. Dans l'état cristallin, il réfléchit plus de lumière que dans l'état amorphe.
Mais ce n'est pas réutilisable.
Si, parce qu'il y a... Enfin, c'est, Si, parce qu'il y a des techniques qui permettent de en le faisant passer à l'état cristallin, si vous voulez, on fait passer à l'état cristallin, puis derrière, on fait passer à l'état amorphe. Donc on commence à savoir dans certains cas, je dis bien dans certains cas, pouvoir effacer et réécrire dans la foulée sur un même disque optique.
Ah, bon, c'est le début alors.
On en est au début.
Ah, d'accord.
Le DVD, par exemple,
et
le standard le permet, mais on ne l'a pas encore
d'accord.
fait.
D'accord. Et la dernière question que je me suis permis de vous poser, c'était le passage magnétique à optique.
Le
passage du magnétique à l'optique.
Là, ce que j'ai évoqué, c'est l'utilisation des deux, en fait.
Vous avez un stockage magnétique et il faut le transmettre par l'optique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire le passage ?
Ah, j'ai un disque magnétique, vous voulez que je le convertisse sur un disque optique ?
Oui, c'est ça.
Ah, ben là, ce sont des outils logiciels qui permettent de passer d'un support à l'autre. Non, je crois que vous me parliez d'une technologie mixte.
Non, c'est pour la transmission des informations.
Ah non, là, vous le faites souvent, vous le faites sur un PC facilement. Vous avez vos données sur un disque magnétique ou un disque dur, et vous savez créer un CD-ROM. CD-ROM, c'est de l'optique.
Ouais, donc
il y a des outils qui vous permettent, à partir des données stockées sur un disque dur, de formater un CD.
Oui, bonsoir, monsieur.
Ici, bon. Vous avez conclu votre superbe conférence sur le problème qui était... qu'il fallait savoir comment transformer l'information en connaissance. Il faut donc pour ça stocker. Moi, je me souviens qu'à l'époque, moi, je travaillais à la C2I au Nouvelle-Bulle, comme bondothécaire. Alors, qu'est-ce que devient le poste de bondothécaire ? Est-ce que ça va être un stocker octéthécaire ? On va devoir créer de nouvelles données de stockage ou de nouveaux stockages pour justement utiliser les stocks de connaissances. Non ?
Ouais. J'ai parlé, là, quand je parlais du stockage holographique, de la mémoire associative. Il se peut très bien que, je ne sais pas, moi, je ne suis pas devin, mais dans une dizaine d'années, on ait complètement changé la façon dont on adresse la mémoire optique, la mémoire de stockage. Aujourd'hui, pour rechercher une information, on donne son adresse. Eh bien, je pense qu'avec la problématique posée par ces énormes volumes d'informations, il faudra passer à d'autres techniques de recherche, comme la mémoire associative. On rentrera dans la machine un morceau d'information et on récupérera l'information. Je crois que c'est un des axes sûrement qui va se développer dans l'avenir, parce que je ne sais pas comment on pourra continuer à rechercher de l'information uniquement en donnant son adresse.
Une question là, monsieur, allez-y.
Bien, le problème que je me pose est le suivant. Nous avons à l'heure actuelle d'énormes problèmes pour utiliser les informations vieilles de 3000 ans, écrites dans un langage simple et en papier, ou en gravure. Donc, on ne sait plus maintenant accéder à ces langues qui sont perdues. Alors, quelle est l'intuition que l'on a de la conservation des informations que nous avons actuellement, qui sont en quantité infiniment plus grande que celles qu'il y avait, disons, par nos descendants ? Quelles sont les possibilités qu'on envisage de sécuriser ces informations pour éviter qu'elles ne soient perdues ?
La deuxième question, nous n'avons pas bien saisi. Vous pouvez répéter la deuxième question, s'il vous plaît ? La question, vous pouvez répéter la question ?
La question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on envisage comme moyen, dès maintenant, d'assurer la pérennité des informations que nous stockons vis-à-vis de la disparition par le temps, comme nous l'avons pour les textes dans des langues que nous avons perdues.
Je crois que je l'avais évoqué un petit peu tout à l'heure. Le problème que vous posez, c'est le problème de la conservation de l'information dans le temps.
C'est ça.
En tant qu'information accessible et non pas tellement utilisable.
C'est
et non pas en tant que support.
C'est justement, c'est qu'il ne suffit pas de conserver des bits, des données sur un disque. Il faut pouvoir, dans 10 ans, dans 20 ans, les récupérer en tant qu'information. Et c'est là qu'interviennent tous les problèmes de format de données qui peuvent disparaître, tous les problèmes des applications qui aujourd'hui ont créé l'information, qui dans 20 ou 30 ans sont peut-être plus capables de la retrouver. Et ça, c'est un problème là, que j'ai évoqué tout à l'heure et qu'on, sur lequel on travaille, mais on n'a pas encore de réponse complètement satisfaisante. Vous avez raison.
Encore deux questions. Le monsieur là-bas.
Merci. Vous avez fait un exposé brillant qui a beaucoup intéressé l'homme de télécommunication que je suis. Alors, quelques petites remarques. Vous avez parlé de l'effet SPE, supermagnétique, qui a encore une limite qui est à 50 de sa limite. Mais avec les densités linéaires qui doublent tous les 18 mois, les densités surfaciques qui sont multipliées par 4 dans la même période, ça nous laisse 4 ans et demi pour atteindre un facteur 64. Hein? Donc on aura dépassé votre mur SPE d'ici 4-5 ans. Vous parlez de densités très élevées, de terabits par pouce carré.
Oui.
Vous avez moins parlé de la rapidité d'accès. Parce qu'il ne me sert à pas grand-chose d'avoir un terabit, voire un pétabit de données s'il me faut un million d'années pour y accéder. Vous avez parlé du stockage holographique. C'est un stockage robuste, prometteur, mais qui me paraît avoir des défauts. Vous stockez un bit, au fond, dans l'ensemble du morceau de sucre ou dans une surface. Je n'imagine mal que l'on ait des matériaux parfaits avec, sur 2 cm cubes. On sait le faire dans certains matériaux comme le silicium, sans aucune dislocation, sans aucun défaut. Mais je pense que le stockage holographique, vous me direz si j'ai raison, est un stockage qui fait redécouvrir l'analogique. Dans la mesure où on n'aura pas de matériaux parfaits et que ça nous permettrait d'avoir un stockage avec une bonne précision, mais pas une précision que l'on exige dans le numérique parfaite. Un autre point, vous avez parlé des autoroutes de stockage, vous avez parlé du DWDM. Je pense que les limites que l'on peut espérer de la fibre optique sont des débits de l'ordre du pétabit par seconde, c'est-à-dire de 1000 terabits par seconde ou encore d'un million de gigabits par seconde. Mais pour cela, il faut aussi utiliser les techniques Soliton, qui sont également, elles, sur les étagères des chercheurs. Enfin, dans votre espace de stockage virtuel, on augmente considérablement la complexité et on rend possible le stockage d'un grand nombre de données, mais qu'en est-il là aussi de la question de la rapidité? Parce que si on augmente linéairement les performances, on risque d'augmenter exponentiellement la complexité et le chemin d'accès aux données, et donc de se heurter à un mur comme celui dont on parle depuis 30 ans ou 40 ans dans la loi de Moore. Hein? Vous avez parlé de stockage personnel en disant 0,1 teraoctet par personne en 2005. Ça me paraît peu.
Pouvez-vous aller plus vite, s'il vous plaît, parce que là... Bon, alors, monsieur Pépin, si vous voulez...
Bon, j'ai noté bon, un certain nombre de remarques là, au passage. Vous avez parlé de débit. Effectivement, lorsque j'ai parlé des disques, j'ai parlé surtout de la capacité et puis du temps d'accès. Mais le débit, il est forcément lié à la... Bah, d'une part à la densité et à la vitesse de rotation des disques. Donc c'est... Bon, j'avais quand même que 50 minutes, donc j'ai pas voulu quand même passer trop de temps autour des disques, mais il me semblait que les deux paramètres principaux, c'était quand même la capacité et puis le temps d'accès. Il est évident que le débit interne d'un disque est très important pour des applications décisionnelles, par exemple. Et aujourd'hui, avec la densité observée avec la densité des disques et la vitesse de rotation, on arrive à des débits qui frôlent les centaines de mégaoctets par seconde. Le stockage holographique, ça m'a paru intéressant d'en parler. Parce que c'était un concept qui se démarque de toutes les nouvelles technologies. Alors, je suis d'accord, c'est loin d'être gagné, parce que bon, c'est un axe de recherche qui est financé actuellement par la Défense aux États-Unis. Et c'est surtout IBM dans ces labos d'Almaden là, qui travaille le plus dessus. Et le problème du stockage holographique, c'est ce que vous avez dit, c'est quand même le matériau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore le matériau idéal qui permette de répondre à caractéristiques que j'ai évoquées. C'est quand même... ce que j'ai dit, ça n'est pas très futuriste. Aujourd'hui, déjà, sur des fibres optiques, en utilisant la technique DWDM, on a quand même considérablement accru leur potentiel de transmission. Alors, dire que ça va passer à des terabits par seconde, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les constructeurs. Alors, mais je parlais du stockage de demain. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Je ne me souviens plus. Je suis un peu d'accord sur vos remarques. Ça mériterait d'entrer un peu plus dans le détail pour chaque point.
Une toute dernière question, monsieur. J'espère qu'elle sera rapide.
Oui, je vais essayer d'être un peu rapide. Ma question, elle porte sur les contenus. Il me semble qu'il existe essentiellement deux natures d'informations numériques. Les informations strictement alphanumériques, c'est-à-dire des chiffres et des lettres, ouais, dès l'origine, et d'autre part, des informations analogiques numérisées. Par exemple, le son, les images fixes, les images animées, il y en a sans doute d'autres. Et ma question, c'est, au niveau du stockage, a-t-on une idée du rapport des besoins exprimés en nombre de gigabits ou de terabits entre les deux types d'informations? Parce qu'il est bien évident qu'en ce qui concerne l'analogique, les besoins peuvent être illimités.
Écoutez, j'ai quand même en tête quelques chiffres. Bon, une feuille comme ça, une feuille de alphanumérique. Hein, c'est 2000 à 4000 caractères. Si vous prenez un film en cinémascope entièrement numérisé, mais ça se chiffre par téraoctets. Si je crois qu'une heure ou deux heures de son, ça, là on rentre dans le domaine des mégaoctets. Donc il y a vraiment un fossé entre le simple la quantité de stockage nécessaire pour stocker de l'alpha numérique et puis la quantité nécessaire pour stocker des objets multimédia à très très haute définition. Là, et l'inflation du stockage, elle vient pas tellement des feuilles de papier, elle vient surtout justement de ces objets multimédia qui sont très très riches en nombre de bits. Il y a un rapport, il faut y prendre chaque corps, mais il y a un rapport 10, 100, 1000 même. Vous le voyez même sur votre PC. Hein. C'est bon, si vous avez un PC, vous voyez la différence. Dès que vous stockez une image, alors, il y a des techniques de compression qui permettent de réduire le volume.
Jacques Pépin, je vous remercie.
Je vous en prie.